Mais d'abord, Luc Lavoie. Bonjour, mon Luc.
Salut, Bernard.
Parle-moi de Apple.
Oui, on en parle parce que ça devient le symbole de ce qui est en train de se produire à l'échelle planétaire. Le géant californien, donc Apple, n'atteindra pas ses objectifs de production pour son nouvel iPhone avant les fêtes en raison de la pénurie mondiale de puces électroniques. C'est Bloomberg qui rapportait ça. Alors, ça veut dire qu'à Noël, là, ça se donne beaucoup, ça, des iPhones
en
cadeau à Noël.
Ben c'est pour ça.
Il n'y en aura pas. Je sais pas, là, il paraît que si on va commander en ligne, on a un mois d'attente. Alors, je sais pas. Allez sur place, j'ai aucune idée si vous êtes intéressé d'avoir un appareil.
Peut-être qu'il vaut mieux le commander tout de suite dans l'espoir de l'avoir en décembre. Ça se peut, ça.
C'est ce que je pense aussi. Oui,
OK.
Alors, pardon, tu vois, il avait prévu de fabriquer 90 millions d'iPhones d'ici la fin de l'année. J'en viens pas des chiffres quand on parle.
C'est fou, hein? Oui, c'est fou.
J'en reviens pas.
90 millions, puis là, ils vont devoir se contenter de combien?
De 80 millions.
Mais quand même. Écoute, c'est parce que plus tu produis, plus ta marge de profit devient intéressante. C'est sur la quantité, à un moment donné, que tu fais ton profit. Et là, c'est sûr que s'ils diminuent leur production de 10 millions, ça va affecter leurs chiffres.
Ça va affecter leurs chiffres, puis ça va contribuer à ce dont je vais te parler en deuxième sujet, à l'inflation. Parce que, bon, on a cet article de Bloomberg qui parle spécifiquement des produits à Apple, de Apple, la compagnie. Mais imagine toutes les autres compagnies qui sont dans le même bateau. Il y a une pénurie mondiale de puces électroniques.
Oui.
D'ailleurs, ça se voit dans les voitures.
Bien sûr.
La production d'automobiles a baissé de façon significative. Et c'est pas parce que la demande n'est pas assez forte, c'est parce qu'ils sont pas capables de livrer la marchandise. Qu'est-ce que ça donne, Bernard?
Mais...
Ça donne l'inflation, monsieur.
C'est sûr, c'est sûr.
Puis Tim Cook, le grand patron, dit que ça pourrait même être pire, ça va bien, hein? Alors, voici ce que ça donne dans la macroéconomie. Une nouvelle flambée des prix à la consommation aux États-Unis en septembre qui a fait passer l'inflation annuelle à 5,4%. Égalant le taux le plus élevé dans ce pays depuis 2008. Ça se passe tout ça pendant que les problèmes mondiaux d'approvisionnement continuent de faire des ravages.
Puis tu as raison de dire que c'est un exemple des problèmes de chaîne d'approvisionnement, en fait, là, qu'on vit là, dans de multiples industries. Là.
Je vais te citer, Bernard, Cathy, je sais pas comment le prononcer comme il faut, Botjancic, qui est économiste à Oxford Economics, qui est une grande boîte internationale, une société de conseil, a dit les augmentations de prix résultant des goulots d'étranglement persistants de la chaîne d'approvisionnement dans un contexte de forte demande maintiendront l'inflation à un niveau élevé car les déséquilibres entre l'offre et la demande ne se résolvent que progressivement. Alors, tout ça pour dire à nos auditeurs, j'entends souvent là, des ministres, puis tout ça. Non, ça va être temporaire. Non, ça va être temporaire. Non, ça ne sera pas temporaire. Moi, je pense que notre prochain défi économique, en tant que zone, je parle de tout l'Occident, ça va être ça. C'est que notre principal défi économique, ça va être l'inflation. Qui est le plus durement touché par l'inflation? Les plus pauvres.
Okay? Absolument.
Et tous les gens qui ont choisi de prendre leur pension, en se disant, bon, regarde, j'ai 55 000 par année de pension. Si tu t'en vas sur un an ou deux avec de l'inflation en haut de 5 %, là, je vais te dire, tu vas trouver que c'est pas beaucoup.
Mais
ça, c'est extrêmement, mais extrêmement inquiétant.
Tu vois, j'ai un auditeur qui m'écrit, il me dit, les puces, Bernard, là, on a un problème aussi dans l'aéronautique. On a un problème d'approvisionnement de puces pour les avions. C'est Christian qui m'écrit. Je ne sais pas pour quelle compagnie il travaille. Ça peut être Bombardier, ça peut être, on a des belles.
Christian
là,
qui, as-tu un autre?
Non, je ne l'ai pas. Puis habituellement, je ne donne pas une autre famille. Mais ça pourrait être Texas.
Parce que je pensais à quelqu'un.
Peut-être que c'est ce Christian-là. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on le vit dans plusieurs industries. Et puis c'est ça, là.
Moi, ce qui m'inquiète, là, c'est de voir la Fed, la Banque centrale américaine, qui, elle, dit, on s'est au-dessus de notre objectif de 2 %, mais oublie pas que le taux d'intérêt de référence de la Fed est à peu près zéro. Mais il dit, on devrait être capable de passer à travers, ça va s'atténuer l'année prochaine, rapprochant l'inflation de son objectif. C'est du langage langue de bois. L'inflation qui grimpe, on le voit dans notre quotidien. On ne trouve pas telle chose. ou telle chose, il n'y en a plus en magasin, mais l'autre magasin en a, mais les prix sont déjà plus élevés parce que la demande est trop forte.
Je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur de créer de...
Une panique monétaire.
Ben oui, ils ont peur de créer des soubresauts, puis de l'incertitude, puis de l'inquiétude chez les consommateurs. Ils veulent surtout pas que les consommateurs commencent à s'inquiéter. Fait que ils essaient d'être rassurants. Mais par moment, tu as raison. Leur discours ne correspond pas à la réalité qu'on observe.
Absolument pas.
Mais peut-être que la réalité... On va espérer qu'ils ont raison. On va espérer que l'inflation... On va espérer qu'elle est temporaire, la motadite, l'inflation.
On est quand même lucide, là. T'sais, on a déjà vu des passes d'inflation, toi et moi, comme journaliste.
Bien sûr. C'est pour ça qu'on est un petit peu sceptique. Parle-moi de la Chine pendant ce... Parce que ça aussi, ça peut avoir un impact.
Ouais, ben en Chine, à l'heure actuelle, c'est que... Tu sais, la Chine, sa poussée économique est vraisemblable de plus de 10% de croissance qui a commencé vers 82-83, était largement menée par l'immobilier. En d'autres mots, moi j'ai été à Pékin en 1979. Les habitations, ça avait l'air des taudis, c'est pas très très compliqué. C'est plus le cas, là. Donc, l'immobilier est devenu le moteur de cette économie-là, il fallait loger les gens. Mais là, leur problème vient du fait que il n'y a plus de croissance démographique. Alors, et c'est voulu par le gouvernement. Ils ont essayé de ne pas avoir de... Parce qu'ils vont manquer de place à un moment donné, mais il y a une contrepartie à ça, tu comprends? Alors là, ce qu'on voit, c'est des immenses sociétés immobilières. Quand je dis immenses, là, c'est parmi les plus grandes au monde,
oui,
qui sont sur le point de déposer le bilan ou qui font reporter leur paiement d'une dette.
Ils sont criblés de dettes, puis on ne sait pas s'ils vont être capables de faire le paiement, là. C'est ça.
Oui, ben il y en a certains de ces paiements-là qui ont été... Les créanciers ont été avisés qu'ils ne seront pas payés maintenant. Alors là, il fallait que cette espèce... de château, je l'ai dit, château de cartes.
La bulle. C'est une bulle immobilière. Eux autres aussi, il y en a une.
Bulle immobilière, ouais, mais sur une échelle incroyable. Ouais. Tu sais, comme la Chine, tout dans une échelle incroyable.
Ouais.
Alors, le risque, c'est que ça va venir casser le marché mondial des devises. Ça va nuire énormément au roulement de l'économie.
Ce qu'on crée, c'est la contamination. On crée qu'une crise financière en Chine finisse par contaminer l'économie mondiale.
Et ça va être le cas s'ils ont vraiment une crise économique. Oublie pas qu'ils ont pas la même définition que nous autres. À l'heure actuelle, on dit que la Chine a ralenti sa croissance, mais sa croissance est à 7 %. Ici, au Canada, 7 % de croissance, on pourrait en rêver, là. Mais j'ai jamais vu ça. De mon vivant, j'ai jamais vu ça. Je pense que dans les années 60...
À
un moment donné, on a atteint 5
ouais,
dans ce coin-là.
Ouais.
Alors, ce genre de croissance, on n'a pas connu ça. Ça fait, comme tu dis, une bulle immobilière. Et la raison pour laquelle on le mentionne, ben c'est ça, c'est que ça peut avoir des répercussions énormes sur le reste du monde entier.
Et vite, la voiture prince Charles...
Notre futur roi, tu vas être content, pauvre Bernard, tu ne pourras pas y prêter serment, celui-là. Mais le prince Charles, il a eu en cadeau, quand il était jeune, à 21 ans, une Aston Martin. Oui. Il adore ça, Aston Martin, mais comme tu sais, il est très préoccupé par les questions environnementales.
Oui.
Alors là, ils ont trouvé moyen d'ajuster sa Aston Martin pour qu'elle fonctionne avec du fromage puis du vin blanc.
C'est ça. C'est son carburant, le carburant de sa voiture. Hein?
Hey, moi, il a parlé, juste une dernière sur lui. Là. Charles, il est tellement épais, ce gars-là, c'est incroyable. Il dit, pour faire ma part, j'ai pas mangé de viande puis de poisson pendant 2 jours cette semaine. Wow! Merci, Prince Charles. Votre Altesse royale, vous êtes vraiment un exemple à suivre.
Mais j'ai pensé à toi quand j'ai vu l'histoire. Pour ça, je voulais que tu m'en parles. Je me suis dit, s'il fallait que Luc conduise une voiture qui roule au vin, il serait toujours en panne parce qu'il passerait son temps à le boire, le vin, plutôt qu'à le mettre dans le réservoir d'essence.
Et voilà!
N'est-ce pas?
Une petite paille!
À demain, Luc!
Salut, Bernard.
OK, salut, mon gars. OK, après la pause, je vous l'ai promis. Eh bien, je vais tenir ma promesse. Vous allez entendre de la belle musique classique. Écoutez, vous allez me dire, Bernard, qu'est-ce qui te prend, là, de la musique classique? C'est pas ça, ton émission. Ben non, mais une fois de temps en temps, il faut vous surprendre. Puis là, je vais vous surprendre par une belle histoire agrémentée de belle musique. Donnez-moi une chance, OK? Après la pause.